RMC, les grandes gueules.
Monsieur le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, bonjour.
Bonjour à tous.
Bah, finalement, encore ministre alors ?
Bah, on est même deux ministres.
Oui, je crois savoir que Mehdi est mon successeur au transport.
Je suis là. Mehdi Guezard, donc, notre ministre des Transports, prêt dans ce gouvernement en parallèle.
Et donc, je détaillerai les cadavres du ministère dans quelques jours.
Avec plaisir.
Tiens, il n'y en a pas beaucoup.
Mais hier, on n'a pas compris ce qui s'est passé parce que vous étiez tous réunis. On a l'impression que c'était le pot de départ. D'ailleurs, il y avait un buffet, du champagne, etc. Et finalement, le président Macron va prendre son temps. D'ailleurs, c'est son droit. Et donc, vous pourriez prolonger jusqu'à quand ?
Je crois qu'il a dit qu'il y aurait un conseil des ministres la semaine prochaine dans cette configuration-là. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience de votre côté.
Et vous avez un nouveau pot de départ la semaine prochaine ?
Je sais rien.
C'est pas bon, les économies.
On peut y aller, du coup.
Non, mais c'est pas bon pour la ligne.
Donc, vous avez été surpris. Vous avez même été surpris.
Non, mais je commence à connaître le président. Donc, je suis peu surpris qu'il prenne le temps avec son propre calendrier.
Il aime bien jouer avec ça.
En tout cas, il prend son temps et il décide quand il décide.
Vous avez pas envie
quand les
de
autres
ou pas
veulent qu'il décide.
Au-delà de ce calendrier-là, vous avez envie de faire partie de la seconde aventure, de ce second quinquennat ?
Moi, j'ai un profil particulier parce que je venais pas de la politique. La politique m'intéressait, mais je revenais pas. J'ai eu une vie avant. J'ai toujours dit qu'on faisait un passage en politique.
Je rappelle, vous êtes pilote.
Ouais. Mm-hmm. Et que j'ai fait aussi d'autres choses avant dans l'entreprise. Et au-delà, donc moi, c'est un grand honneur de servir la République. C'est probablement la plus belle chose qu'on peut faire dans une vie. Mais honnêtement, le sujet, pour moi, c'est pas de durer, c'est de servir ou d'être utile. Donc voilà, tout me va. Toutes les hypothèses me vont.
Je vous ai vu sur la liste des 24 ministres qui se présentent ou se représentent aux législatives de juin. C'est votre cas aussi en...
Moi, j'ai été élu en 2017.
Ouais.
Et donc, j'ai un suppléant qui est maintenant député depuis plus de 2 ans et demi. En fait, il aura passé plus de temps au Parlement que moi. Donc, on va avoir une discussion ce week-end sur l'organisation. Mais d'une manière ou d'une autre, je participerai aux élections, c'est sûr.
On avait à l'instant une discussion sur ces petits excès de vitesse là, qui sont sanctionnés. 58%, vous avez vu, vous avez écouté. Les micro-excès de vitesse aujourd'hui qui sont la majorité des PV.
J'en suis victime. J'ai encore perdu un point.
Mais... Ah, pour combien quelle a été votre infraction ?
J'ai retenu
ouais. 53. Pour...
Ah, le ministre des Transports, en fait, perd un point, vous voyez.
Oui.
Ça veut dire aussi que vous conduisiez vous-même.
Oui, mais ben oui, je conduis moi-même, notamment le week-end, ma famille, etc. Mais du coup, je réagissais un petit peu à ça, parce que on fait tous un peu la même chose, je pense. On essaie de respecter, puis parfois on est quelques kilomètres heure au-dessus. Mais comme il y a des marges, en vérité, vous ne vous faites jamais toper pour 1 km heure de plus. Non, à 51, vous n'êtes pas topé.
Il y a 5 km de marge.
Oui, il y a même 5%. 5%. Donc en vrai, et d'ailleurs beaucoup de gens font ça sur l'autoroute, vous vous mettez à 136, 137 entre la vitesse indiquée par...
Parce que c'est 68 euros, c'est un point de permis. Après on se plaint parce que les gens roulent sans permis.
Il y a vraiment une dimension pouvoir d'achat.
Il y a une dimension
mais la
pouvoir
vérité,
d'achat,
c'est que si vous êtes à 51 pour 50, vous n'êtes pas sanctionné, si on se dit les choses.
Mais est-ce donc que on touche pas. Est-ce que ce système est efficace ? Je vois les chiffres, ils bougent plus. Hein, depuis 2013.
Ils ont les chiffres de la sécurité routière d'une manière générale, ils ont beaucoup diminué sur période longue.
Oui, parce qu'il y a le COVID.
Et après, c'est vrai que les chiffres sont difficiles à appréhender
pour le COVID,
etc.
Hein.
Mais c'est assez stable. En vérité, c'est assez stable.
Oui, donc c'est-à-dire que cette politique du tout radar.
C'est un niveau bas, mais assez
peut-être
stable.
Que cette politique du tout radar a atteint ses limites. Parce qu'on a mis des radars partout. Hein.
Ouais, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres équipements dans les voitures qui vont aussi permettre d'être plus vigilant au volant, etc., etc. Donc peut-être que le relais, c'est une politique peut-être moins répressive, mais peut-être plus technologique. Il y a une des premières causes, par exemple, sur autoroute, c'est l'hypovigilance, c'est le fait de s'endormir au volant. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec...
Et puis il y a le portable au volant.
Le caractère délictuel. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est plus délictuel.
Mais ça, on n'arrive pas à le sanctionner, c'est plus compliqué.
C'est quand même terrible, parce que le nombre d'accidents avec facteur contributif, l'utilisation du portable, c'est quand même assez terrible. Parce que ça, pour le coup, c'est totalement évitable.
Oui, mais on n'a pas trouvé le moyen de le contrôler, puisqu'on ne peut pas mettre non plus un gendarme.
Toujours appel à la responsabilité de chacun et contrôle. Et ça fait quand même vraiment partie des pratiques.
Vous parliez pour le téléphone, c'est appel à responsabilité et contrôle, mais pour les petits excès de vitesse, c'est 68 euros et un point. Et c'est là où il y a un deux poids, deux mesures qui reste incompréhensif. Des règles pour
les
tous,
règles,
alors.
Non, mais les règles, c'est que le téléphone est interdit.
Mais
oui.
On contrôle plus,
on contrôle plus la vitesse, voilà.
Je veux dire. Quand on fait un contrôle jumelle, on contrôle les deux. Ça va peut-être déjà arriver de vous faire arrêter.
Attention, il y a des voitures aussi. Il y a des voitures maintenant qu'ils ont mis en banalisé, en véhicule banalisé, qui ne t'arrêtent même pas quand tu es au téléphone au volant. Hein,
et mais des générations, majeures.
Tu as l'amende, chez toi.
En tant que futur ministre, il faudrait que vous alliez voir Valeo parce que c'est une boîte française qui.
Je connais.
Équipement automobile.
Qui équipe beaucoup de voitures. Et en fait, maintenant, dans les nouveaux équipements, ils détectent si vous êtes au téléphone, au volant, et ils vous préviennent, etc., etc. Donc là aussi, les équipements vont aider aussi à réguler un peu les comportements.
Question sur le pouvoir d'achat, peut-être, ou sur autre chose.
Non, moi, sur les réseaux sociaux, en fait, je vous suis sur les réseaux sociaux, donc je vous suis sur Twitter.
Qui ne vous suit pas sur les réseaux sociaux?
Surtout sur TikTok. Au début, je me suis effondré. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce ministre qui fait des choses aussi farfelues? Et finalement, j'y ai pris goût. Je trouve ça drôle. Je trouve ça léger. Et mes élèves m'en parlent. Alors qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Et moi, la question est la suivante. Est-ce qu'on vous a déjà reproché de faire cela? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, de dégrader la fonction de ministre avec ces stories qui sont, je l'avoue, très drôles? Ou au contraire, est-ce que c'est un moyen pour vous de montrer qu'on peut être ministre, qu'on peut être un homme normal, qu'on peut avoir de la légèreté, qu'on peut être drôle? Et finalement, on démocratise la politique en s'adressant à tout le monde.
Moi, je le vis comme ça. Et la réflexion, ça a été celle-là. D'abord, c'est un ministère intéressant où il y a plein de choses qui peuvent faire rêver, qui intéressent. C'est la vie quotidienne, c'est la grande industrie, c'est aussi la grande histoire de la technologie française, le Concorde, le TGV. Donc c'est un ministère qui peut faire rêver. Et moi, je ne faisais pas de politique. Donc j'ai vu aussi une forme d'envers de déconnexion et de ringardisation des acteurs politiques. Et donc, mon idée, c'était d'exprimer les choses assez facilement avec de la légèreté et d'autodérision.
Bien sûr.
Donc, je pense pas que ce soit dénaturer la fonction ou.
Vous avez eu des reproches quand même?
Non. D'abord, on m'a laissé faire, mais je pense qu'on m'a laissé faire parce que j'ai fait. Je pense qu'on a regardé ça avec un peu de curiosité au départ. Peut-être que certains ont espéré que ça marche pas. Et bon, bref, ça a trouvé son public. Donc moi, ça.
Vous avez eu un coup de fil de Matignon?
Ça m'indiffère un peu de savoir si ça plaît ou pas.
Jean Castex vous a jamais appelé?
Non, je lui ai montré. Non, mais Jean Castex, il s'y est intéressé et je lui ai montré un petit peu les. Bon, bref, les traînes. Non, j'ai jamais eu de remarques négatives. Après, j'ai pris mon petit risque sur le format.
Oui, vous avez pris un petit risque.
Jean-Baptiste Jubarry, vous avez prononcé vous-même l'expression « pouvoir d'achat ». Là, les prix des billets d'avion vont décoller. Ils sont même en train de décoller et ça va partir très haut. Que peut faire le ministre des Transports? Parce que ça va impacter le portefeuille des Français, ça va impacter aussi les départs en vacances et autres. Le tourisme, qu'est-ce que vous pouvez faire
sur les vols courts et les vols tourisme low cost, il y a pas mal d'offres, c'est pas mal reparti. Donc en fait, il y a toujours des politiques d'appel de prix qui sont favorables aux consommateurs. Le vrai sujet, c'est le long courrier. Comme on a des parties du monde qui sont fermées, l'Asie du Sud-Est, la Chine, et pour longtemps, et que le modèle économique des compagnies aériennes, c'est essentiellement le long courrier, effectivement, on a des hausses de prix sur le long courrier, un peu sur l'outre-mer parfois, même si c'est davantage régulé, qui sont importantes. Ça renvoie un peu malheureusement à la façon dont le trafic aérien se comporte un peu maintenant, post-Covid, avec des avions qui ne sont plus pleins et avec des liaisons qui ne sont pas rétablies. Donc, il y a des liaisons sur lesquelles l'État subventionne, ce qui fait baisser les prix. Les liaisons d'aménagement d'outre-mer, évidemment, historiquement, certaines liaisons d'aménagement du territoire. Après, c'est vrai qu'on est de toute façon dans un moment où, notamment en Europe, on atteint une forme de maturité de marché et si on a moins d'offres, moins d'avions, moins de destinations, on a forcément une dimension prix.
Et d'une manière générale, se déplacer coûte cher, de plus en plus cher. Ouais. Les automobilistes le constatent chaque jour. Alors, il y a eu chèque énergie, etc. Mais on ne peut pas uniquement régler le problème de cette inflation qui, visiblement, va s'installer au moins jusqu'en 2024 par des chèques, parce que déjà, on n'a plus beaucoup d'argent. Alors, c'est quoi? C'est la sobriété? On roule un peu moins?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a, dans les transports, il y a tous les modes de transport qui coûtent cher, mais qui polluent peu, les transports en commun. Et là, on le voit, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, ça coûte très cher les transports en commun, mais ça permet d'offrir des solutions alternatives aux gens qui n'ont pas de voiture, de désenclaver, et évidemment, c'est moins polluant. Puis après, il y a tous les gens, ils sont des millions de Français qui dépendent beaucoup de la voiture, et évidemment, l'impact des carburants est important. Et là, il faut faire deux choses. Il ne faut pas caler sur la transition énergétique au sens aller vers des véhicules qui polluent moins en 2025, 2026, 2030. Mais il faut aider les gens à pouvoir se les acheter ou pouvoir les financer. Et là, on avait travaillé une mesure qui a été reprise par le président sur la location longue durée, sur le fait d'avoir des leasings à 80, 90, 100 euros par mois, au lieu d'acheter des voitures. Parce qu'on voit bien que malgré toutes les aides, souvent les gens peinent à financer les 2000, 3000, 4000, 5000 euros, alors qu'on a plein d'aides. On a des aides directes, on a des prêts à taux zéro, on a des microcrédits, mais les gens n'y arrivent pas. Donc l'idée de passer de la propriété à la location, c'est certainement d'avoir une tendance de temps long. Et il faut qu'on puisse ça l'accompagner très fortement pour réussir la transition et soutenir le pouvoir d'achat.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le prix du train. Je vais vous prendre un exemple. Je vais souvent à Berlin et j'utilise le train. Si je prends le billet sur le site de la SNCF, j'en ai parfois pour 150, 200 euros. Si je prends le même trajet avec les mêmes trains sur le site de la Deutsche Bahn, j'en ai pour 59 ou 69 euros. Qu'est-ce qui explique cette différence tarifaire alors que ce sont les mêmes trains et que c'est le même trajet?
Oui, alors, sur le... Il y a deux formes de réponses. Un, on a demandé à la SNCF. Je vous regarde maintenant comme si je faisais vraiment la passation de pouvoir. Mais vous devez savoir qu'on a demandé à la SNCF de faire une politique des petits prix parce qu'on a vraiment ce sujet-là, notamment des familles aux périodes de vacances qu'elles puissent se déplacer avec des petits prix. Ils ont fait des millions de billets à petits prix. Et donc ça, c'est préservé. Et on a aussi des lignes d'aménagement du territoire, les fameux trains Corail devenus des Ouigo, bon, avec des tout petits prix. Mais après, le ferroviaire, contrairement parfois à ce que disent les gens, ça coûte cher.
Oui.
3 milliards par an, ça coûte cher. Et le modèle aujourd'hui de la SNCF, c'est grosso modo, j'ai des TGV que je vends à peu près au prix du marché, qui payent pour tout le reste. Je simplifie un peu les choses. Et ben ça coûte cher. Oui. Et donc c'est un mirage de penser qu'on peut faire des trains en nombre, disponibles tout le temps, à des prix, et à des très petits bas prix. D'accord. Donc je pose ça au débat. Mais on a fait une politique de bas prix, notamment pendant les vacances et pour les familles, avec des abonnements pour le télétravail, et la SNCF, de ce point de vue-là, a totalement rempli son contrat.
Non, moi, ce que j'aime bien chez M. Djebbari, c'est que c'est quelqu'un, justement, qui n'est pas issu du monde politique à l'origine, qui est venu...
La société civile.
Voilà, la société civile, qui a quand même fait ses preuves, qui a été dans un gouvernement qui a vécu pas mal de mésaventures pendant ces crises pendant ces 5 ans, et qu'il est un peu sorti un peu du lot. Et je vous le dis parce que je n'ai pas la même opinion pour certains de vos collègues, mais je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, et que vous sortiez un peu du cadre où vous faites un peu votre vie, vos vidéos, vous essayez un peu de décomplexer ce rôle de ministre ou de politicien, où vous essayez d'être en quelque sorte proche du peuple. C'est sympa et c'est tout à votre honneur. Ça fait plaisir que des politiques restent quand même ancrés et ne sont pas hors sol.
Moi, je veux dire, ce qui me fait plaisir quand je reçois pas mal de messages privés sur Twitter, Instagram, mais notamment TikTok, c'est deux types de réactions. Un, c'est les jeunes qui découvrent la politique.
C'est la politique du transport.
Les trains de nuit, tout ce qu'on fait. Parce qu'en
les bus de nuit, les trains de nuit.
Ils ne le savaient pas. Et ça, c'est déjà satisfaisant parce qu'on dit on fait des choses qui sont comprises par les Français, notamment les jeunes. Et deuxièmement, c'est le nombre de messages où des jeunes m'ont demandé comment on faisait pour devenir ministre des Transports.
Merveilleux.
Et franchement,
c'est merveilleux.
Parce que ça prouve que on peut y trouver un intérêt.
La politique, pour vous, ça va pas.
Mais c'est un passage à la politique. Voilà, honnêtement, aujourd'hui.
Quel âge avez-vous aujourd'hui, M. Djebbari?
Moi, je viens d'avoir 40 ans. Il faut être fou pour penser que vous êtes titulaire de votre poste à vie, et il faut être fou pour penser qu'avec la. Honnêtement, c'est pas facile d'être ministre. C'est un peu un sacerdoce, quoi. De penser qu'on peut faire ça avec intensité toute une vie, je pense.
Pourtant, en France, les exemples ne manquent pas.
N'est-ce pas?
Mais autre génération, cumul des mandats, autre système.
Vous êtes vous aussi comme Emmanuel Macron, comme votre président, pour la réduction du nombre de députés. Vous trouvez qu'il y a trop de députés en France.
Moi, pour la réduction, je suis probablement pour ce qu'on appelle
les c'est un ministre qui le dit. C'est pas ministre qui le dit.
Vous êtes pour la réduction du nombre de députés.
Je suis pour les élections intermédiaires, pour la proportionnelle, y compris en allant avec des taux très hauts. Je suis pour le vote en ligne.
C'est moi, c'est
ta mise. On n'a pas peur d'avoir. Les gens nous disent depuis des années, le vote en ligne, c'est une catastrophe.
Et c'est ce qu'il faut.
Parce que honnêtement,
l'abstention va être
plein de pays européens qui le font, l'Estonie et ailleurs, il n'y a plus de...
Votre gouvernement n'a pas été très...
Mais on verra, il y aura du débat.
Très novateur, très moderne en la matière.
Il y a des gens qui votent, c'est ça que je veux dire. Et honnêtement, il y a plein de jeunes qui auraient voté, et d'ailleurs de façon tout à fait raisonnable,
en vote électronique,
c'est sûr.
Vous avez dit la phrase, il ne faut pas avoir peur des gens qui votent. Et en fait, la caste de dinosaures que j'évoquais ce matin a peur des gens qui votent. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas à disposition les moyens aujourd'hui de faire voter ceux qui sont éloignés de la vie politique. Et moi, si vous partez, je vous ai fait partie des ministres que je regretterais, à la différence de votre collègue M. Blanquer, pour ne citer que lui.
Il est très bien, M. Blanquer.
Oui, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. On restera collègues quand même. Parce que je pense
restez neutre, M. le ministre.
Moi, j'ai joué au foot avec Jean-Michel Blanquer. On était dans la même équipe.
Vous avez encore des choses à donner à la France, je pense.
Joker.
Je pense que vous avez encore des choses à donner à la France. Ça serait dommage de se passer de vous juste après que 2 ans et demi de mandat. Je ne vous invite pas à faire comme les autres et à rester toute votre vie. Mais encore un petit peu, ça serait bien.
Mais ce n'est pas lui qui décide.
Il y a aussi des élections législatives à gagner.
Tout à fait.
Or, on a vu au lendemain du deuxième tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, dire emmenez-nous à l'Élysée, à Matignon, parce qu'il regrette de ne pas être à l'Élysée, donc il voudrait aller à Matignon. Mélenchon, Premier ministre. Ça s'organise effectivement à gauche. Vous dites, ça y est, on va avoir droit à une cohabitation.
Mélenchon, il n'est bon qu'en campagne, donc il essaie de faire campagne tout le temps. Et objectivement, il est bon en campagne. Il faut regarder ça avec un peu de lucidité. Hein. Son score du premier tour, je connais plein de gens qui ont voté Mélenchon, mais c'est quand même un score qui a agrégé le vote utile à gauche. Et donc, je pense que si on est lucide, Mélenchon, il ne fait pas 21% en France. Il fait 13, 14, et puis il a agrégé beaucoup de gens qui ont voté utile à gauche.
Il y a un vote utile aussi au premier tour.
Si on regarde un peu ce qui se passe entre le PS, les LFI, enfin les accords à la fois de programme et les accords de plateforme politique et électoraux, ils vont être quand même très difficiles à construire.
Alors, vous n'y croyez pas à cette branche réunie?
Il a raison, tactiquement, de faire ça. C'est malin, c'est habile, surtout dans l'entre-deux-tours. Mais objectivement, je pense que c'est un peu artificiel.
Bon, en attendant, c'est Emmanuel Macron qui a été réélu. Alors, il a fait des grandes promesses écologiques avec un Premier ministre qui serait en charge carrément de ce dossier, entouré de c'est deux ministres sur la planification. Et comment les transports vont se mettre tous dans ce scénario?
Alors, je crois comprendre que... Non, d'abord, un des grands... C'est bien que l'écologie soit au niveau du Premier ministre, parce qu'on a des énormes sujets devant nous. Je prends un exemple, l'énergie. On a une crise énergétique, on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Quand je dis beaucoup, c'est énormément d'électricité pendant ces 30-40 prochaines années. Un chiffre pour les transports, pour vous. Aujourd'hui, entre aujourd'hui et 2050, on va avoir besoin pour les transports, les véhicules électriques, les voitures à hydrogène, etc., de 18 fois plus d'électricité. C'est énorme, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, et en très peu de temps. Donc un, c'est bien d'avoir un planificateur, un ministre qui planifie, et EDF, qui opère pour le compte de l'État. Et les transports, certainement, trouvent sa place avec le logement dans ce qu'on appellerait, ce qui sera peut-être appelé le ministère de la transition écologique locale. Parce qu'il y a une dimension très locale. On est sans arrêt au contact des élus pour faire des tramways, des lignes de métro, etc. etc. Donc je n'ai aucune information, mais.
Mais ça pourrait s'articuler comme ça.
J'ai l'impression.
Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans tout électrique? Parce que vous dites vous-même, on est en train de se créer des besoins d'électricité dingues, tous en électrique, sachant qu'on dit que c'est moins polluant, mais enfin bon, il y a le problème des batteries, qu'on ne produit pas nous-mêmes, enfin bon, voilà.
C'est une bonne idée si ça, c'est une bonne idée si, un, vous produisez les batteries, oui, deux, vous savez les recycler, et trois, il n'y a pas une technologie qui va... D'abord, parce qu'on a un sujet de matière première sur le temps long. Tout le monde veut faire de l'électrique partout dans le monde et donc il y a une concurrence pour les ressources. Deuxièmement, nous, par exemple, sur l'hydrogène, on a un coup à jouer en France. J'en parlais encore hier au président de la République. On a le nucléaire, on sait produire de l'électricité décarbonée en quantité. Et on voit bien que d'autres pays en Europe, je pense aux Allemands, ont fait des choix quand même qui sont aujourd'hui des choix de dépendance au gaz russe et ailleurs. Donc là, on a vraiment, sur plusieurs dizaines d'années, des politiques incroyables, des politiques de puissance de la France à se constituer. C'est beaucoup d'emplois qualifiés, c'est beaucoup d'emplois en France, c'est beaucoup de rayonnement de la France à l'international. Donc il faut raisonner comme ça.
Et pourquoi, Damien, tu dis attention au tout électrique?
Le tout électrique, c'est parce qu'on a une dépendance par rapport aux pays asiatiques et surtout par rapport à la Chine, sur les batteries qui
tant
sont...
Tant qu'on les produit pas ici.
Tant qu'on les produit, oui, mais ça fait 10 ans déjà que l'électrique a été lancé. Ça fait déjà 10 ans que l'électrique a été lancé dans l'automobile.
Parce qu'on l'a complètement loupé en France.
On l'a loupé, donc on est bien d'accord. Mais vous imaginez que maintenant les batteries électriques sont faites dans des usines. Regardez la stupidité de la chose. Les batteries électriques pour des véhicules propres en Europe sont faites dans des usines à charbon en Chine.
Ouais. Mais là,
c'est waouh.
Et ensuite, on les fait venir.
Là, on a relancé jusqu'ici.
Là, ce qu'on appelle deux gigafactories, qui sont des usines de production de batteries en France. On en a deux, on en aura bientôt trois. Les Allemands font pareil. Donc, tous ces mouvements-là, il va quand même. L'Europe va se redouter de capacité de production de batteries.
Oui, mais voyez,
ça va relocaliser. Après, le sujet, c'est comment on recycle. Là, la France,
Les terres rares.
Les terres rares, d'abord, comment on capte des ressources. Bon, c'est géopolitique. Et deuxièmement, comment on recycle. Et là, on a une industrie nucléaire, par exemple, avec l'ex-Areva, Orano, qui s'est recyclé quasiment 99% des éléments chimiques des batteries. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut construire demain.
Pardon, monsieur le ministre des Transports, mais j'ai l'impression qu'on sort d'une dépendance pour s'en créer une autre. On sort de la dépendance au carbone, au pétrole, d'accord, mais on est en train de se créer une autre dépendance, un peu avec une. Pardon, mais on est dans une pensée unique où il faut forcément être dans l'électricité. Exemple, moi, j'entends Tavares qui est assez critique. J'entends des professionnels qui disent attention à cette pensée unique.
L'énergie d'une manière générale. Vous créez, enfin, il faut être honnête, vous créez des dépendances, que vous soyez sur une base charbon, une base nucléaire, une base fossile.
Mais vous ne peut-être pas supprimer le carbone tout de suite, c'est ça que je veux dire.
Non, mais si, parce que là, c'est une double dépendance, une dépendance sur le prix. Vous produisez pas, vous prenez, vous achetez le prix de ceux qui produisent. Donc aujourd'hui, les Russes et les pays du Golfe, vous ne créez pas d'emploi chez vous et vous ne maîtrisez pas le pouvoir d'achat chez vous. Donc franchement, cette double ou triple dépendance, il faut en sortir. Donc de ce point de vue-là. L'électricité, les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, c'est une bonne chose. Par contre, il faut pas être monotechnologique, entre guillemets. Il faut regarder tout et faire des choix. À très long terme, par exemple, je pense que l'hydrogène aura une part très importante à jouer. À très long terme. Donc, il faut aussi raisonner très long terme.
Oui, à très long terme.
Le nucléaire, il y a la fission nucléaire aujourd'hui. Demain, possiblement, la fusion nucléaire. Là, on parle de 2100. Mais il faut raisonner pour 2100.
C'est ça.
Pays.
Tout à fait.
Et par ailleurs, le temps se compacte tellement et les choses vont tellement vite technologiquement que, voyez, on serait fou de pas penser à la fusion nucléaire, par exemple. Il y a plein de choses qui se font actuellement.
Merci.
Ça paraît loin pour les gens, mais.
Merci, monsieur. Mais le MIT, j'ai vu que Boston au MIT travaille très vite là-dessus.
Exactement.
Sur
c'était la fusion. Avancées.
Donc, concrètement, les cartons, ils sont faits ou pas?
Moi, je suis
encore.
Moi, j'étais pilote.
Il est dans les petits rouages.
On vivait avec un bagage. Donc, moi, je suis très à l'aise.
Il voyage léger.
Je pars très vite.
Merci, monsieur le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.